créé il y a seulement un peu plus d'un an, en avril 2023, aux côtés de Timothée Lacroix et de Guillaume Lample. Votre audition s'inscrit dans la continuité de celle que nous avons eue il y a quelques semaines de cela avec Anne Bouvreau et Philippe Aguillon, tous deux coprésidents du comité interministériel sur l'intelligence artificielle, dont vous êtes également membre. Et puis nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui, l'ouverture du salon VivaTech. Donc on est vraiment en plein dans les sujets de l'intelligence artificielle et il y a eu une grande réunion également à l'Élysée sur ce thème. Donc il nous semble en effet important de mieux comprendre la révolution technologique à l'œuvre grâce à l'intelligence artificielle, ses répercussions économiques et industrielles, en particulier pour l'écosystème français, et ce que cela implique pour les pouvoirs publics et pour les parlementaires en matière de soutien, d'accompagnement, mais aussi de maîtrise et d'anticipation des risques. Nous saluons ainsi de nombreuses initiatives nationales prises dans ce domaine, tout comme l'organisation du prochain sommet sur la sécurité de l'intelligence artificielle en France, avec le sentiment qu'il se passe quelque chose dans notre pays, et je suppose que c'est un sentiment que vous partagez également, puisque vous avez choisi de fonder votre start-up en France. D'abord, en matière de recherche scientifique, un sujet qui, je le crois, vous tient particulièrement à cœur, puisque vous avez commencé votre carrière en tant que chercheur chez DeepMind, l'entreprise de recherche en intelligence artificielle de Google. Nous observons la multiplication des laboratoires de recherche. Je pense par exemple au lancement du premier laboratoire commun de recherche ouverte, financé par Xavier Niel, Rodolphe Saadé et Eric Schmidt, et qui, je crois, ont tous les trois investi dans votre start-up. Aujourd'hui, quel regard portez-vous sur le développement de notre système, de notre écosystème national de recherche en intelligence artificielle? Est-il pour vous satisfaisant? Parvenez-vous à recruter facilement des chercheurs et à trouver les compétences dont vous avez besoin? Ensuite, en matière de production de modèles d'intelligence artificielle et de services associés, il y a un peu plus de 2 mois, vous avez mis sur le marché votre service d'assistance baptisé le chat, que vous voulez le plus neutre possible, multilingue et notamment parfaitement fonctionnel en français, dont l'ambition est de rivaliser directement avec les services déjà existants de ChatGPT chez OpenAI, de Bard chez Google ou encore de Claude chez Anthropic. Pourriez-vous faire un point sur votre développement et surtout sur ce qui vous distingue, ce qui distingue en tout cas votre offre de celle des GAFAM? Après la production, l'enjeu est également la distribution et la commercialisation de vos modèles et à travers cela, la diffusion de l'excellence de l'innovation à la française. Récemment, l'annonce de votre partenariat avec Microsoft Azure a fait réagir, d'autant plus que Microsoft a investi 10 milliards de dollars dans votre concurrent OpenAI et y détient 49% de son capital. Aujourd'hui, pourriez-vous nous éclairer sur la structure de détention du capital de votre entreprise et sur sa gouvernance, ce qui n'est en aucun cas incompatible avec une forte internationalisation, je tiens à le rappeler. Je ne doute pas que vous êtes sur la voie du succès, car vous avez réalisé une levée de fonds d'amorçage de 105 millions d'euros un mois après votre création, puis une levée de fonds de série A de 385 millions de dollars. Selon ce que nous pouvons lire dans la presse, une nouvelle levée de fonds de série B de plusieurs centaines de millions de dollars serait en cours de finalisation, des chiffres pour le moins vertigineux. Les acteurs français et européens du capital risque sont-ils au rendez-vous ou vos levées de fonds reposent-elles essentiellement sur des fonds américains? Car au Sénat, nous déplorons depuis longtemps le manque de mobilisation d'acteurs institutionnels et le manque de fonds d'investissement capables d'investir dans la durée selon des logiques technologiques et industrielles des montants conséquents. Enfin, en tant que législateur, nous ne pouvons que nous interroger sur la nécessité et la pertinence de l'élaboration d'un cadre de régulation adapté. Que pensez-vous de l'adoption du règlement européen sur l'intelligence artificielle que vous avez publiquement et ouvertement critiqué dans sa phase d'élaboration? Selon vous, l'Union européenne a-t-elle trop anticipé les risques? Quels sont les points précis qui ne vous convenaient pas? Dans tous les cas, je ne doute pas que nous serons amenés à légiférer au niveau national sur ce sujet dans quelques années. Voilà, Monsieur Mensch, je vous remercie en tout cas de votre disponibilité. Je signale à nos collègues que c'est la première fois que Monsieur Mensch donc, participe à une audition au niveau du Parlement. Donc c'est une première et on est très heureux que cela se passe au sein ici du Sénat et de notre commission des affaires économiques. Je vais vous laisser la parole, bien évidemment, pour répondre à ces premières questions et pour toute autre intervention et information complémentaire que vous souhaiteriez nous donner. Puis, ce sera au tour de nos collègues de vous poser les leurs. Et je précise, bien évidemment, que cette audition est retransmise en direct sur le site du Sénat. Voilà, je vous laisse la parole bien volontiers.
Alors, merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les Sénateurs. Alors, c'est effectivement la première fois que je viens au Sénat, à vrai dire, où je n'avais pas mis les pieds. J'ai beaucoup couru autour du Luxembourg dans ma jeunesse, mais je n'étais jamais venu dans ce bâtiment. Donc je suis ravi et honoré d'être avec vous aujourd'hui pour discuter à la fois peut-être de l'historique de Mistral et de comment on l'a construit et comment c'est lié aux enjeux de l'intelligence artificielle, de la révolution industrielle qui vient, et peut-être donner un peu des indications sur ce que je perçois des forces européennes et françaises et puis des défis. Donc je vais commencer peut-être par présenter Mistral et les raisons qui nous ont amenés à la créer. Peut-être pour donner le contexte, c'est une entreprise dont on a déposé les statuts le 28 avril 2023. Donc elle a à peu près un an d'existence, 50 salariés, ce qui est beaucoup pour une entreprise d'un an d'existence. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait la couche, on va dire, fondationnelle, infrastructurelle de l'intelligence artificielle d'aujourd'hui, c'est-à-dire ce qu'on appelle les modèles fondationnels. C'est des modèles statistiques qui permettent de générer du texte, qui permettent de lire du texte, qui permettent de visionner des images et de raisonner à partir de corpus de documents particulièrement grands et de générer du texte qui ressemble et qui résonne un petit peu à la manière des humains, un petit peu moins bien on va dire, mais qui permettent de le faire à grande échelle. Ces modèles-là, ils sont difficiles à produire, ils sont chers à produire. La connaissance pour les faire est assez limitée dans le monde et donc il y a un certain nombre de sujets de talent à avoir. On se positionne aujourd'hui comme un concurrent qui propose quelque chose de différent, évidemment, aux grandes entreprises américaines qui font aussi ces modèles fondationnels, qui le font de manière très centralisée et qui proposent ces modèles derrière des services qui sont, on va dire, fermés. Et la différence, c'est que nous, on les propose de manière plus ouverte, c'est-à-dire qu'on apporte le logiciel à nos clients et on a à ce titre, conçu nos stratégies de distribution sur la première année avec la mise à disposition de modèles ouverts. Donc, on a mis à disposition gratuitement notre technologie de sorte à ce que les développeurs, qui sont les premières personnes auxquelles on s'adresse, ceux qui font les applications, puissent s'emparer de cette technologie, la déployer où ils le veulent, donc c'est-à-dire pas nécessairement dans les trois clouds public américain, et la modifier comme ils le veulent. Ce que les trois clouds publics américains et leurs technologies associées et les entreprises qu'elles possèdent plus ou moins font aujourd'hui. Donc, c'est ça notre angle. Et la raison pour laquelle on a lancé Mistral, c'est qu'en réalité, Guillaume, Timothée et moi, on vient de ces entreprises. Guillaume, Timothée, ils étaient à Meta, moi j'étais à DeepMind pendant 3 ans. C'est pas là où j'ai commencé ma carrière, j'y reviendrai. Le point de départ, c'était de se dire qu'en fait, on savait faire cette technologie en France, qu'on pouvait recruter une équipe talentueuse très vite, et puis rapidement remonter à l'état de l'art et proposer des modèles fondationnels, donc de génération de texte. Peut-être pour se resituer, c'est vraiment un peu comme sur vos téléphones quand vous avez une suggestion de mots quand vous tapez un texto. C'est exactement la même chose, simplement on appuie plusieurs fois sur le bouton et ça permet de générer du texte qui est particulièrement long. Et par ailleurs, les modèles qu'on utilise sont beaucoup plus gros, beaucoup plus performants, coûtent des millions d'euros à entraîner. Sur les téléphones, ce n'est pas vraiment le cas. Donc, en France, un des avantages, c'est qu'on avait cette capacité d'avoir une équipe performante. Et donc, très rapidement, on a lancé Mistral en juin. Et 4 mois après, on a mis à disposition un modèle qui était particulièrement pertinent pour les développeurs qui faisaient des applications en intelligence artificielle. Et on a remis le domaine, qui s'apprêtait à être un domaine particulièrement oligopolistique, vers un chemin où il y avait une opportunité peut-être d'un peu plus de décentralisation grâce au modèle qu'on proposait. Donc, voilà à peu près le contexte de notre démarrage. Ce qu'on propose, c'est donc une alternative qui est ouverte, une alternative portable, qui est indépendante des cloud providers. Cette indépendance, on l'a construit en ouvrant plusieurs canaux de distribution via ces cloud providers. Donc, c'est à la fois des concurrents, mais aussi des partenaires. Et par ailleurs, on est une entreprise européenne, donc incorporée en France, qui se préoccupe certainement plus d'un certain nombre de sujets culturels. Une des différences qu'on a par rapport à nos concurrents, c'est qu'on est le seul à ne pas être américain. Et à ce titre, on a particulièrement mis l'accent sur la maîtrise des langues européennes, dans un premier temps, parce que c'était là où était notre marché, et sur l'aspect de la personnalisation des modèles. Comme il s'agit de modèles qui génèrent du contenu, en réalité, il y a un aspect culturel, il y a un aspect de sélection des biais, de sélection des valeurs. Et donc, nous, notre approche, qui, je pense, diffère largement de celle des Américains, c'est qu'on permet aux développeurs et aux utilisateurs de nos technologies, de spécialiser et d'incorporer les valeurs qu'ils choisissent dans les modèles et dans la technologie. Donc c'est ça l'angle, cet angle de proposer une alternative au cours naturel des choses, qui serait de finalement laisser les clés de cette technologie aux 3 entreprises qui ont capturé l'essentiel de la valeur de la tech, les 4 entreprises, dans les 20 dernières années, et qui, grâce à leur position dominante, peuvent largement capturer l'essentiel de la valeur ajoutée de la nouvelle révolution industrielle qui vient dans les 20 prochaines années. Donc c'est un peu l'ambition. Alors c'est pas évident, quelques difficultés, mais on a bien démarré. Nous, on est particulièrement attachés à cet aspect d'ouverture dans le déploiement de l'intelligence artificielle générative à plusieurs titres, puisque pendant 10 ans, l'intelligence artificielle a fait des progrès grâce à cette ouverture, y compris entre les laboratoires privé, et on croit à cet aspect d'ouverture. Ça favorise la transparence, c'est une technologie qui est puissante, donc potentiellement qu'il y a des risques, et donc c'est utile de pouvoir auditer les systèmes. Ça favorise la collaboration, on a vu beaucoup de groupes et d'entreprises utiliser nos modèles comme une base pour faire des choses encore plus intéressantes, et ça favorise évidemment l'innovation, parce que les techniques que les laboratoires choisissent de diffuser aux autres permettent d'accélérer la technologie. Donc voilà, c'est l'angle qu'on a pris. Alors je pense que c'est un des sujets au Sénat, c'est certainement la question de comment aborder le sujet de l'intelligence artificielle d'un point de vue législatif. Donc c'est une technologie nouvelle qui a des risques. Alors c'est une technologie qui est neutre, hein, c'est tout comme un langage de programmation, on peut faire des virus avec, mais on peut aussi faire des logiciels qui sont utiles. C'est exactement la même chose. Les modèles de langue, ça génère du texte. Ça permet de faire des applications qui ressemblent à du logiciel, en fait. Donc, c'est neutre par définition. Et donc, on peut en faire toutes sortes de choses. On peut éventuellement l'utiliser pour des mauvaises utilisations. Donc, il ne faut pas les ignorer. Ce qui est intéressant, c'est qu'en réalité, comme c'est une technologie neutre, l'antidote est en général contenu dans la solution. Donc, ça permet par exemple d'améliorer un petit peu les virus, ça permet largement d'améliorer les systèmes de défense. Donc, il y a, comme dans toutes les améliorations logicielles, un sujet d'améliorer les capacités de défense au fur et à mesure que la technologie devient de plus en plus performante. Donc, dans cette optique d'ailleurs, On travaille activement à autonomiser nos utilisateurs pour faire en sorte que quand ils prennent la technologie, ils soient capables et qu'ils créent une application avec. Donc on fait une technologie, ce n'est pas vraiment une application, c'est en dessous de l'application, c'est l'infrastructure. On veut faire en sorte qu'on donne les outils pour que les développeurs contrôlent bien les applications qu'ils déploient. Donc s'ils déploient un chatbot et qu'ils veulent empêcher le chatbot de parler de terrorisme, de dénier l'Holocauste par exemple, on peut le faire grâce à un certain nombre d'outils qu'on met à disposition. Donc il y a ces sujets du risque. Nous, la position qu'on a toujours tenue depuis un an, c'est simplement de dire que ce n'est pas un changement de paradigme, c'est du logiciel. On sait réguler le logiciel et en général, le logiciel, on le régule à travers les applications. Donc on regarde, quand on fait une application logicielle dans le domaine médical, on vérifie que par exemple les recommandations qui sont faites pour aider au diagnostic sont justes et sont justes l'essentiel du temps de manière statistique. Donc notre approche, c'est vraiment de dire que d'un point de vue régulatoire, il faut plutôt se focaliser sur les applications, ce qui était l'objet de l'AI Act dans sa première mouture, on va dire, et ce qui a un peu changé l'année dernière à cause de lobby américain, en réalité. Nous, on a parlé, c'est à ce moment-là qu'on a été public, en disant qu'on pensait que c'était une mauvaise idée, parce qu'en réalité, réguler la technologie plutôt que réguler les applications, ça a surtout comme effet de favoriser les gros acteurs. Donc voilà, on continue à le dire, les AI Act, on peut très bien travailler avec, on recrute des gens du côté de la conformité, ce qui n'est pas forcément quelque chose qu'on avait prévu de faire en démarrant, mais bon, c'est tout à fait gérable parce qu'en fait on a une échelle suffisante pour le faire. Je pense qu'au-delà des risques, c'est important de considérer, c'est surtout important de considérer tout ce que ça va apporter à la société et tout ce que ça va changer dans la société. La première chose, c'est que ça met à disposition de l'intelligence de manière très peu chère. Donc ça permet de faire des applications qui vont être beaucoup plus performantes, qui vont comprendre beaucoup plus le contexte, qui vont faciliter l'accès à la connaissance de tout le monde. Donc à ce titre-là, c'est porteur de révolutions assez profondes dans l'éducation, dans la santé, dans l'éducation parce que ça permet de personnaliser l'éducation et de le faire y compris dans des endroits qui sont des déserts éducatifs, dans la santé parce que ça permet d'aider au diagnostic, y compris dans les endroits qui sont des déserts médicaux. Par ailleurs, ça fluidifie l'accès à la connaissance, ça permet de poser des questions au corpus, à la bibliothèque mondiale en réalité, et ça c'est un peu la meilleure manière de monter sur les épaules des géants, comme dirait Darwin, parce que ça, simplement ça permet de faire de la science plus vite, ça permet de voir ce qui a été fait avant, et puis d'avoir des nouvelles idées, etc. Ça peut être vu aussi comme un outil d'aide à la créativité, c'est autant de muses qu'on a à notre disposition, le chat est un bon exemple, pour écrire des synopsis, ce genre de choses. Et finalement, et peut-être de manière encore plus importante, ça change la manière dont on travaille. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de tâches qui sont relativement répétitives, mais qu'on n'arrivait pas à automatiser jusqu'à aujourd'hui parce qu'il y avait un petit peu trop, pas complètement processisé. En fait, l'intérêt de l'intelligence artificielle, c'est que, y compris pour des tâches qui sont pas exactement, peuvent pas exactement être réduites à des algorithmes, on arrive à les automatiser parce que les systèmes qu'on construit ont en fait cette flexibilité que les humains ont de s'adapter à un petit peu de bruit dans le process, on va dire. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour beaucoup de métiers, y compris des métiers du service, y compris des métiers du service relativement bien payés aujourd'hui, c'est des métiers qui vont, alors je ne vais pas dire disparaître, mais très largement modifiés dans les 10 prochaines années. Donc je pense qu'il faut largement l'anticiper dans une économie qui est dominée par le service en France. Ça veut dire que la structure du travail et du marché du travail va profondément changer dans les 10 prochaines années et je ne suis pas sûr que le législateur en ait parfaitement conscience des changements que ça apporte. Voilà, donc j'ai un peu fait dans le mauvais ordre par rapport à ce que Audrey avait préparé, mais on peut revenir sur les questions de capital, on peut revenir sur les forces de la France. Je pense que vous avez commencé à dire que j'avais commencé ma carrière chez DeepMind. C'est pas vrai, j'ai commencé ma carrière à l'INRIA. Et donc j'ai fait ma thèse là-bas, et tout comme d'ailleurs un grand nombre de nos employés qui ont fait leur thèse en France, qui ont commencé à travailler, en tout cas qui sont tous passés par le système de formation publique français. Et donc ça, c'est une très grande force. Aujourd'hui, on arrive à recruter des juniors qui ont 23-24 ans, et qu'on fait monter en compétences et qui très rapidement sont aussi forts que des personnes qui ont 10 ans d'expérience dans d'autres pays. Donc ça, c'est une très grande force. Je pense que c'est une force qu'il faut absolument garder. C'est une force qu'on a commencé un peu à entailler avec, malheureusement, les réformes de l'éducation, en particulier en mathématiques, au cours du précédent quinquennat. Et donc, je pense qu'il faut vraiment, faire attention à ça, parce que c'est une des rares forces qu'on a et il faut la garder. Et sur le capital, on peut y revenir. On a évidemment le contrôle de l'entreprise. On a fait un premier tour de seed qui était à peu près moitié-moitié américain-européen. On a fait un tour de série A, où on n'avait pas de revenus à l'époque, et on avait besoin de beaucoup de capitaux. Et il se trouve que les fonds européens ne sont pas du tout structurés pour faire des paris avec forte conviction, c'est-à-dire écrire des chèques de 50-100 millions d'euros sans voir le revenu d'une entreprise. Ce qui est le cas des Américains. Ce qui est le cas des fonds américains, pour des raisons de structure du marché des capitaux, sur lequel on pourra revenir. Alors, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'à partir du moment où il y a un peu de revenus, les Européens ils peuvent un peu revenir dans la place, mais pas à des niveaux de paris comme les Américains savent faire. Et donc, ça veut dire que d'une certaine manière, l'upside de l'entreprise, enfin, qui n'est pas encore démontré, mais on espère le démontrer, va en partie vers les Américains, alors que ça pourrait être des Européens. Et bon, ça, on n'y peut pas grand-chose en tant qu'entreprise, mais certainement, en tant que législateur, il y a peut-être plus de leviers. Voilà, je peux répondre à vos questions.
Peut-être sur l'adoption du règlement européen de l'intelligence artificielle, oui. Sur vos prises de position.
Oui, alors notre position, ça a été de dire qu'il fallait réguler les applications et que réguler la technologie fondationnelle, ça n'avait pas de sens parce que, en fait, évaluer une technologie qui est protéiforme, c'est pas possible parce que c'est ni nécessaire. Quand on fait une application dans le secteur de la santé, on s'en moque que le modèle puisse être utilisé à des fins de cyberattaque. Donc, c'est pas nécessaire. En revanche, c'est pas suffisant. C'est-à-dire qu'on aura beau tester un peu dans tous les domaines le modèle de base qui permet de tout faire, on va pas être capable de dire que pour une application spécifique dans la santé, on est sûr que au moment du déploiement, dans 99,9% des cas, la recommandation du système est bonne. Donc c'est pour ça que nous, ce qu'on produit, ce qu'on fournit, c'est des outils pour vérifier que statistiquement, le modèle a le comportement attendu. Donc c'est ça, c'est la condition suffisante pour un déploiement. Ce qu'on pense, c'est que se focaliser sur la technologie, ce n'est pas une bonne idée. Il se trouve que c'est quand même dans le texte, donc on va savoir le faire. Il suffit de documenter correctement un certain nombre de... une suite d'évaluations. On saura faire, on le fait en interne, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et par ailleurs, il y a un autre sujet qui est le sujet de la transparence sur les jeux de données d'entraînement. Je ne l'ai pas mentionné, mais on s'entraîne sur le web ouvert, sur le domaine public. Et ce sujet-là, il est critique dans la mesure où une grande partie de l'intelligence de l'entreprise et de ce qu'on a pu construire, c'est la manière dont on traite les données et dont on arrive à mettre ces données, à extraire la connaissance de ces données pour les mettre dans le modèle. Parce qu'en fait, on ne retient pas les données, on extrait juste les capacités de raisonnement pour les mettre dans le modèle. Et donc, donner toutes les recettes pour une entreprise comme la nôtre, sauf que ces recettes, manifestement, sont plutôt compétitives par rapport à celles de nos concurrents américains, les données, ça serait un peu signé... ça nous mettrait quand même largement en difficulté. Et donc, il y a un équilibre à trouver entre la transparence, et qui est certainement bonne dans certains cas, et puis le secret des affaires. C'est pas tant pour le secret que pour être capable de construire un modèle économique viable et qui nous permette de survivre dans le temps.
Merci pour ces premiers propos. Sans plus tarder, je vais d'abord donner la parole à Patrick Chaise, qui est un des spécialistes reconnus au niveau du Sénat sur le numérique et qui a apporté et qui potentiellement devrait encore apporter un certain nombre de textes sur ces sujets-là. Patrick.
Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur Mensch, de vos propos et de votre présence ici. Vous étiez hier à l'Élysée à l'invitation du président de la République, donc au moment où le président a donc largement évoqué un sommet donc qui aurait lieu en début 2025 en France. Qu'attendez-vous en fait de ce sommet, vous, en tant que représentant de l'entreprise Mistral ? Alors la présidente, dans son introduction, a cité Mistral comme une pépite française. Je partage. Mais êtes-vous encore français ? Et j'allais dire, comment allez-vous faire pour rester français ? Vous avez évoqué un certain nombre de points, mais j'aimerais que vous puissiez développer. Deux autres questions, mais rapides néanmoins. Dans le monde de l'IA, est évoqué de plus en plus le fait que l'IA dépasse l'intelligence humaine. Qu'en pensez-vous ? Et à quelle échéance, si jamais ? Et enfin, dernière question, qu'est-ce qui, aujourd'hui, limite ou limiterait votre développement en France ?
Je vous propose de répondre à ces premières questions et après, on prendra les questions de nos collègues, trois par trois, mais vous verrez, c'est très, très facile comme exercice à suivre.
Ok, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on attend du sommet sur l'IA? Alors, on n'en attend pas grand-chose, mais je pense que c'est important. Non, mais ce qui est utile, c'est que la position de la France est peut-être une position qui va recentrer le débat, parce que ça a commencé, cette série de sommets, on pense qu'ils sont un peu trop réguliers, parce qu'il y en a un tous les 6 mois, mais peut-être un annuel, ça serait mieux. Mais cette série de sommets a commencé par une concentration sur l'aspect sécurité, sûreté, safety en anglais, et sur un certain nombre de questions qui pour nous ne sont pas tout à fait pertinentes, sur le risque existentiel et le fait qu'on puisse perdre le contrôle des modèles, etc. Donc dans la teneur du débat en octobre, je pense que ce n'était pas exactement la bonne, un peu anxiogène. Alors ça a commencé, ce qui est intéressant, c'est que tous les acteurs qui croient largement ou plutôt aux bénéfices de cette technologie, on s'est rendu compte qu'ils n'avaient pas suffisamment parlé l'année qui précédait. Donc en fait, dans les 6 mois qui ont suivi, je pense que ça s'est quand même largement recentré, et notamment l'open source qui avait été pas mal mis en cause au moment de l'AI Safety Summit en Angleterre. C'est réimposé, et puis finalement tout le monde a dit que c'était dangereux, mais finalement il ne s'est rien passé, hein. Ce qui est intéressant, c'est que la France a une position qui est beaucoup plus mesurée là-dessus, et sur je pense que le fait qu'elle organise ce sommet va permettre d'avoir une teneur de débat plus intéressante sur comment on peut de manière collective et avec une coordination peut-être mondiale faire en sorte que les bénéfices de l'intelligence artificielle se transmettent à toute la population, et faire en sorte que ça soit fait de la manière la moins inégalitaire possible, parce que c'est quand même, pour nous c'est largement le risque majeur, c'est que si c'est mal fait, il va y avoir une forme de capture par un certain nombre de gros acteurs, et ce que ça risque de faire, c'est enrichir les plus riches et appauvrir les plus pauvres, ce dont le monde n'a pas vraiment besoin. Je pense que c'est une opportunité de ce point de vue-là. C'est pas la nôtre, c'est plutôt l'opportunité de la France de recentrer le débat. Nous, en tant qu'entreprise, d'un point de vue action, il n'y a pas grand-chose d'actionnable qui sort de ces sommets pour le moment. Alors peut-être que ça deviendra un peu plus actionnable au fur et à mesure. Historiquement, c'est pas tout à fait facile d'instaurer une gouvernance mondiale. Sur le logiciel, ça n'a jamais été vu. La seule manière dont on a réussi à faire des gouvernances mondiales sur le logiciel, c'est à travers des gouvernances open source, donc notamment sur Linux. Il y a plein d'exemples. Mais je pense que là, on essaye d'être créatif à un endroit où on n'a pas forcément besoin d'être très créatif. Ça, c'est sur la première question. Question sur est-ce qu'on est français ? Alors, aujourd'hui, 75% du capital est français, en comptant les employés, et en comptant les fonds, et en comptant les fondateurs. Le comité stratégique, le board en anglais, est sous contrôle des fondateurs. L'entreprise est incorporée en France, et les 3 fondateurs habitent en France. Donc d'un point de vue de gouvernance, on est complètement français, effectivement. Je pense que c'était nécessaire pour nous, et je pense que c'est aussi bénéfique, parce qu'on vient d'ouvrir une filiale aux États-Unis, de s'allier avec un certain nombre de fonds américains qui comprennent mieux la technologie que les fonds français et que les fonds européens, malheureusement, et qui par ailleurs sont structurés auprès de leurs limited partners pour faire des chèques beaucoup plus gros, à un stade beaucoup plus précoce des entreprises. Donc on est français, on a l'intention de le rester. Moi, j'ai pas l'intention de partir de Paris. Enfin, c'est pour ça qu'on a créé l'entreprise en France, parce qu'on n'avait pas l'intention de partir. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas un marché substantiel aux États-Unis. Et à ce titre-là, on a aussi ouvert une une filiale aux États-Unis à un mois et qui grossit très vite. Je pourrais y revenir, mais une des catastrophes de l'économie française, c'est ces 3 mois de préavis employeur qui, en fait, bloquent la croissance d'entreprises comme la nôtre et qui, je pense, s'il fallait réguler, s'il fallait légiférer sur quelque chose et changer le droit du travail, c'est permettre aux employés de partir quand ils veulent de chez leurs employeurs. Et ça, je pense que ça changerait vraiment énormément de choses dans la compétitivité des entreprises en France. Donc aux États-Unis, on grossit plus vite qu'en France à cause de ça. Mais bon, la solution est relativement claire. Sur la question de l'intelligence artificielle qui dépasserait l'intelligence humaine, je pense que ce n'est pas vraiment le bon débat. Les deux choses n'ont à peu près rien à voir. L'intelligence artificielle dont on parle, c'est essentiellement la compression de toute la base de connaissances humaines auxquelles on arrive à accéder en posant des questions. D'une part, c'est ça. Et d'autre part, c'est un langage de programmation auquel on peut parler en anglais ou en français. Donc au lieu de coder, d'écrire des lignes de code, on peut s'exprimer un peu plus clairement sur ce qu'on veut que le modèle fasse. Et donc on demande au modèle de faire quelque chose et il va décider lui-même d'écrire son propre code pour appeler un certain nombre d'outils. Donc c'est deux choses. C'est une compression de la connaissance et c'est un langage de programmation plus abstrait. Ça n'a rien à voir avec l'intelligence humaine. Je pense qu'on ne parle pas de conscience, on ne parle pas d'intention, il n'y a pas de volonté. Il n'y a pas d'autonomie, il n'y a aucune autonomie qu'on ne conçoit nous-mêmes, c'est-à-dire qu'il y a des systèmes qui peuvent faire plusieurs appels, utiliser des outils, utiliser des données et puis renvoyer des choses à l'utilisateur, etc. Mais il n'y a rien d'autonome, c'est un logiciel. Quand on écrit ce genre de logiciel, on contrôle toujours ce qui va se passer et l'ensemble des sorties que le logiciel peut avoir. Donc il n'y a vraiment pas de changement de paradigme de ce point de vue-là. Il y a un changement de performance, c'est-à-dire que c'est plus rapide aujourd'hui de faire des applications, puisqu'il suffit d'écrire quelques commandes, peut-être un modèle de langue. Et puis ça continue à avancer, donc je pense que c'est intéressant, il faut évidemment surveiller ça de près. Mais on parle plutôt de quelque chose qui va augmenter les humains, qui va augmenter leur productivité, qui va certainement changer la manière dont ils doivent travailler, c'est-à-dire que leur rapport marginal à l'économie va changer, il faut être plus créatif. Il faut se focaliser sur tout ce qui est plutôt relationnel, parce qu'en fait, tous les aspects procéduraux vont progressivement être remplacés par des machines. Et donc sur le développement, alors je pense que j'ai peut-être un peu répondu au début, sur le développement en France, ce qui nous gêne, je dirais que les capitaux, ça ne nous gêne pas, parce qu'en fait, on peut aller les lever outre-Atlantique, donc ça, ce n'est pas très gênant. Le marché en Europe est beaucoup plus fragmenté qu'aux États-Unis. Mais ça, c'est un peu structurel. Enfin, en plus, il y a un sujet de langue, il y a un sujet de culture. C'est-à-dire que ce n'est pas la même culture des affaires dans les différents pays européens. C'est un petit peu moins unifié qu'aux États-Unis, encore qu'il y a aussi une culture différente aux États-Unis. Donc, c'est plus fragmenté, donc ce n'est pas la même structure. La croissance est plus difficile à avoir. Hein. Je reviens sur ce problème des 3 mois de préavis. Il y a, du côté ingénieur, il n'y a pas de problème de talent. Du côté... les Américains appellent go-to-market, en marketing, etc. On n'a pas l'écosystème de la tech que les Américains peuvent avoir dans la Silicon Valley. Donc, c'est plus difficile de recruter en marketing, de recruter du côté partenariat. Toutes ces choses-là, c'est plus difficile. On est des très bons ingénieurs, mais on n'est pas d'excellents commerciaux de la tech. C'est donc très difficile pour nous de rester complètement en Europe. D'une part à cause du marché, parce qu'en fait notre marché il est global, et la tech fondamentalement ça traverse les frontières, et par ailleurs il y a un certain nombre de compétences qu'on n'a pas en France malheureusement.
Merci. Donc
marketing,
on va passer aux questions 3 par 3 et on commence avec Anne Chalarcher.
Oui monsieur, écoutez, vous forcez notre admiration. Et ça fait du bien d'entendre que l'entreprise est française et devrait le rester a priori. Ma question se porte essentiellement sur le retard qu'a pris l'Europe, les pays européens, sur cet enjeu considérable de l'intelligence artificielle, là où les États-Unis et la Chine, eux, ont pris bien sûr le problème à bras-le-corps et ont développé tout cela. Donc on vous a déjà entendu parler de vos réticences et de votre analyse de ce retard européen, là où il s'agit d'un véritable enjeu de puissance économique mondiale. Pour vous, est-ce que c'est un problème seulement technique, auquel cas il n'est pas très difficile d'y remédier? Est-ce que c'est plus gravement un problème législatif ou est-ce que ça n'est pas une tendance qu'aurait cette vieille Europe à animer les peurs et à ne pas prendre le virage de l'innovation là où les USA et la Chine ont été capables de le faire. Alors clairement, aujourd'hui, vous êtes devant des législateurs. On a entendu déjà vos remarques sur la formation, où il vous a semblé que supprimer les mathématiques était une erreur. Je pense que vous n'êtes pas le seul à l'avoir pensé. Qu'est-ce que nous pouvons faire très concrètement sur le droit du travail, sur la formation, pour justement faire en sorte que la France reste un leader européen et devienne un leader mondial?
Merci, Anne. Bernard Buis.
Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur Mensch, pour vos propos clairs et directs. Moi, j'aurais rapidement deux questions. Selon vous, la France a-t-elle les moyens de ses ambitions en matière d'attractivité dans l'intelligence artificielle? Et quels sont les domaines de recherche et de développement prioritaires pour Mistral aujourd'hui?
Merci, Bernard. Et dernier de cette première série, Olivier Rettmann.
Merci, Madame la Présidente. Merci pour votre déroulé, cher monsieur, qui était très intéressant. Un tout petit point de désaccord avec vous, mais qui n'est pas grand-chose. Vous avez dit et vous avez insisté sur un point, c'est que les parlementaires n'ont pas forcément conscience de l'impact sur l'emploi que va avoir le développement de l'intelligence artificielle. Moi, je peux vous dire qu'on a pleinement conscience de l'impact que ça va avoir sur l'emploi et sur les métiers du futur et qu'il va falloir vraiment... appréhender cette chose-là d'une manière importante parce qu'on n'aura plus les mêmes emplois demain. Un certain nombre seront remplacés par l'IA. On fait régulièrement ici, et moi qui préside la délégation aux entreprises, on a encore auditionné Juan Carlos Martinez, que vous devez certainement connaître, fondateur d'une start-up également dans l'IA aux États-Unis et qui est régulièrement en France et qui travaille énormément pour des entreprises françaises. Donc vous voyez, les Américains sont quand même... vraiment en avance, mais je sais que vous en êtes convaincu. Non, moi, je voulais justement, dans le cadre de ces contributions potentielles que peut apporter l'IA en termes d'emploi, mais également dans un point de vue législatif, comment vous voyez l'impact de l'IA sur le travail parlementaire, le travail de réflexion sur la loi, les rapports parlementaires, les amendements, les discours, etc. Je pense qu'on va faire partie des gens qui seront très fortement impactés par le développement de l'IA. Merci.
Voilà, Monsieur Mensch, je vous propose de répondre à cette première série de questions.
Très bien. Alors, je pense sur la première question, je pense que ce qui manque à l'Europe de manière générale, c'est l'échelle. Et on ne va pas effacer 30 ans de décrochage dans la technologie en un an. L'intérêt de l'intelligence artificielle, c'est que c'est quand même un changement de paradigme un peu... Enfin, c'est un changement, c'est une révolution technologique, c'est une inflexion... On sait faire marcher des systèmes pour un coût largement plus réduit que ce qu'on savait faire avant. Donc ça crée un certain nombre d'opportunités d'essayer de rétablir l'échelle qu'on n'a pas réussi à avoir dans les 30 dernières années. Mais ce n'est pas complètement facile parce que le marché est plus petit, parce que le droit du travail est plus restrictif. Parce que les capitaux sont un petit peu moins disponibles. Donc moi, je dirais que ce qu'on peut faire du côté du droit du travail, c'est donner plus de liberté aux employés de partir de leurs entreprises. Je pense que ça nous accélérerait largement. Ce que j'ai dit, et je le redis, ça serait très important et très utile. Je pense que sur les... nous, en fait, on paye nos employés avec des salaires plus ou moins américains. On a quand même un droit du travail. On n'a plus que le droit du travail français. Donc, une des choses qu'on pourrait faire et qu'on ne se permet pas de faire, c'est de recruter extrêmement vite, comme les Américains savent le faire, tout en se permettant de perdre 30% des gens au bout de 2 mois. En fait, on pourrait le faire, mais ce n'est pas vraiment dans la culture. Je pense que le droit du travail aujourd'hui le permet en France, donc à mon avis, il n'y a pas tellement de changement à faire de ce point de vue-là. Non, vraiment, le sujet, c'est de déprotéger les grosses entreprises qui veulent garder leurs employés. Il y a un sujet d'aide aux entreprises qui, pour nous, serait très utile. Il y a le CIR en particulier qui nous est utile aujourd'hui parce que ça permet de financer une partie de la R&D. Il pourrait être plus grand et plus utile pour nous si on était capable de financer ce qui est l'essentiel de notre budget, qui est donc la capacité de calcul. Et donc ça, c'est un sujet, je pense, qui aurait beaucoup d'impact, non seulement pour nous. En réalité, peut-être moins pour nous que pour les petites startups, des startups peut-être verticalisées, qui ont un champ d'application un petit peu moins large, et qui pourraient largement bénéficier d'avoir 128 cartes graphiques pour pouvoir faire la recherche dont ils ont besoin, et que le CIR pourrait financer dans un premier temps. Et donc ça, je pense que c'est quelque chose qui serait assez utile pour l'écosystème. Sur la deuxième question, donc, est-ce qu'on a les moyens de nos ambitions ? Je pense qu'il y a une vraie volonté. Il y a le début d'un écosystème aussi. Il y a une volonté politique d'accompagner, d'accompagner cet écosystème. La question, c'est quel est le rôle du pouvoir public en fait dans ces sujets-là. C'est quand même essentiellement un problème de concurrence, un problème de c'est essentiellement porté par des entreprises privées. Moi, je pense que c'est important d'être très ambitieux tout de même sur l'aspect de la recherche publique, parce que c'est là où on fait des inventions qui derrière peuvent être mises à l'échelle par les pouvoirs, par les entreprises privées. Et de ce point de vue-là, on pourrait largement être plus ambitieux dans les dépenses de la recherche publique en France. Je pense que s'il y avait un levier qu'on recommanderait, ce serait vraiment celui-là, parce que ça permet d'avoir des docteurs qui sont très forts. Il faut que ces docteurs, pour que nous on puisse recruter des docteurs compétents, il faut qu'ils aient eu accès à la capacité de calcul. Cette capacité de calcul, elle coûte particulièrement cher, et donc il faudrait largement plus financer la recherche en intelligence artificielle publique. Et je dirais que ça, c'est un des leviers sur lequel on n'a pas de prise, mais qui nous aiderait de manière indirecte assez fortement. Sur l'aspect du travail parlementaire, alors je suis très content que vous en ayez conscience, et que je pense que ça va être important d'y réfléchir sur le fond. Hein, ça touche par exemple à l'assurance chômage. Enfin, y a beaucoup de sujets. Sur le travail parlementaire, ce qui est intéressant, c'est que cette technologie, elle permet de traiter du texte, de relier des textes entre eux, de faciliter la navigation dans une base de données, dans une base de texte. Et je pense que c'est quand même une grosse partie du travail parlementaire. Ça permet sans doute d'avoir une préparation des différents arguments et de l'historique des lois. Alors, j'ai jamais été parlementaire, mais je pense que ça doit faire partie du travail de certains attachés. Et peut-être que ça permet d'avoir une vision un peu moins... de regarder les choses de manière peut-être plus impartiale, plus objective, en résumant les faits. On peut faire en sorte que les modèles soient le plus objectifs possible et donnent une base de travail avec des constats, un historique des lois, une base de travail qui faciliterait peut-être le débat démocratique. Donc ça, c'est un sujet. Et après, il y a un sujet supplémentaire qui est donc l'accès et la transparence de la vie publique et du débat parlementaire vis-à-vis des citoyens. Parce que comme c'est une technologie qui facilite l'accès à la connaissance, ça peut aussi faciliter l'accès à la loi et faire en sorte que la loi soit mieux connue et mieux comprise des citoyens.
Merci. Donc on passe à une nouvelle série de questions avec Franck Montaugé.
Merci Madame la Présidente, merci Monsieur Mensch pour votre présentation très, très intéressante. J'aurais deux petites questions. Alors, autant on peut comprendre, et je peux comprendre, que l'intelligence artificielle apporte un plus, autant je m'interroge, on peut s'interroger, me semble-t-il, sur ses conséquences sur les situations de relations interpersonnelles. Dans votre propos liminaire, vous avez évoqué la question de la santé, de l'éducation, problématique effectivement de plus en plus, hélas, en zone rurale, en laissant entendre que l'intelligence artificielle, si j'ai bien compris votre propos, serait de nature à régler d'une certaine manière les difficultés que l'on constate aujourd'hui, de plus en plus importantes, sans mettre en vis-à-vis un patient de son soignant ou un élève de son professeur. Moi, ça me pose une vraie question de fond qui est d'ordre moral. Je pense que si l'intelligence artificielle doit mettre en présence les individus de technologie et exclusivement de technologie pour régler leurs problèmes contribuer à leur vie, ça pose un problème de fondement moral. Voilà, donc je voudrais savoir ce que vous pensez à cet égard, et si vous avez, et je suppose que c'est le cas, une réflexion par rapport à ça. Ma deuxième question, plus simple peut-être, vous avez fait allusion aux études d'impact que pourrait avoir le développement de l'IA, je dirais, dans la société, dans le marché du travail, etc. Est-ce qu'il en existe pour vous qui mérite voilà, d'être connu, des études d'impact qui prendraient en compte évidemment tous les aspects de la vie en société, économique, sociale, environnementale et culturelle, voire éthique, comme faire la question précédente. Voilà, moi je serais très, très, très preneur d'études de ce type-là pour voilà, mieux cerner les conséquences sociales, sociétales et éthiques de cette technologie. Je vous remercie.
Merci Franck. Anne-Catherine Loisier.
Merci Madame la Présidente, merci Monsieur, Madame. Moi je suis ravie d'entendre que vous n'attendez pas grand-chose des politiques, je trouve ça plutôt sain. Et en fait je pense que c'est nous qui attendons davantage de votre part, parce que justement on a bien compris les enjeux autour de l'IA, mais moi je l'avoue, c'est une technologie dont je ne maîtrise pas forcément tous les tenants et les aboutissants. Et c'est ça qui est peut-être plus complexe pour nous à appréhender. Et par exemple, moi, je m'étais livré à un petit exercice au moment des réflexions sur les centrales d'achat dans les négociations commerciales, les centrales d'achat à l'étranger, qui est un phénomène assez récent. Et j'avais interrogé ChatGPT. Et en fait, il m'a donné une analyse, je dirais, en regardant dans le rétroviseur. Il ne m'a pas du tout donné une analyse prospective d'une situation qui est en phase de développement. Et voilà. Et donc, je pense que c'est vraiment ça les limites aujourd'hui de l'IA. C'est qu'en fait, ce n'est pas une capacité à penser l'avenir, c'est une capacité, comme vous l'avez dit, à compiler les données dont on dispose déjà. Et c'est pour ça que je pense que le travail du parlementaire, il a beaucoup d'avenir, puisque le parlementaire, c'est pas, excusez-moi s'il y a des avocats dans la salle, mais c'est pas un avocat qui compile des textes et qui les applique, c'est quelqu'un qui pense les textes de l'avenir. Et ça, je pense que l'IA peut être un outil pour nous pour connaître l'existant, voilà, bien sûr, mais la projection dans l'avenir, voilà, alors comment vous... Je ne sais pas si je suis rassurée, mais voilà. Moi, je veux savoir comment vous appréhendez cette réalité. C'est-à-dire que je trouve que c'est un peu le danger de l'IA. C'est qu'il y a un biais, en fait. Les données qu'elle nous donne dépendent, bien sûr, des données utilisées pour son entraînement. Voilà. Et ça, je trouve que ça peut être un outil d'influence majeur, quoi. Donc, comment est-ce que vous appréhendez... Cette réalité-là. Et puis, autre sujet, donc la capacité d'influence de l'IA sur les manières de penser. Et puis, l'autre sujet, c'est celui plus de la souveraineté numérique. On a souvent, nous, des débats ici sur la territorialité de nos infrastructures en matière de protection des données. Et quand on sait qu'en fait, les données font le tour de la planète en quelques secondes, j'aurais aimé avoir votre... avis là-dessus. Est-ce que il y a un vrai enjeu par rapport à la souveraineté numérique, un enjeu de territorialité des infrastructures? Et puis enfin, dernier point, je suis surprise sur ce que vous nous dites sur le marketing tech. Donc en fait, nos écoles là de commerce et d'ingénieurs ne préparent pas aujourd'hui des ingénieurs, et en quoi, en fait, qu'est-ce qui leur manque? C'est le nombre ou c'est qu'est-ce qui leur manque, en fait, dans la formation à la française du marketing digital ou du marketing tech? Merci.
Dernière question, enfin, une série de questions avec Rémi Cardon.
Merci, Madame la Présidente. Deux questions. La première, j'ai cru comprendre que vous avez fait un certain nombre d'interviews et vous avez dit, et je pense que vous avez raison sur ce point-là, que pour développer une filière européenne de l'intelligence artificielle, il fallait, pour justement rivaliser avec Microsoft et compagnie, l'Europe devait dispose, et vous l'avez dit dans votre préambule, dispose de compétences, mais les financements ne sont pas à la hauteur des enjeux. Et donc, en pleine campagne européenne, c'est peut-être le moment de chiffrer les besoins de vos ambitions. Alors, comment voulez-vous réveiller l'Europe sur ce sujet, tout en sachant que le marché mondial, et vous l'avez dit, croît à une vitesse vertigineuse. Il a déjà triplé entre 2020 et 2022, en passant de 14 à 40 milliards de dollars, et il pourrait atteindre 1 300 milliards dans 10 ans, donc ce qui représente un marché colossale. Et deuxième question, puisque vous avez aussi parlé de votre parcours, j'aimerais aussi parler aussi du parcours de l'un de vos actionnaires qui a lui aussi réussi sa reconversion professionnelle et dans le privé en investissant 176 euros au début et en récupérant à la fin 23 millions d'euros. Donc je parle bien de Cédrico qui lui aussi a un parcours assez remarquable si on, en étant le trésorier d'Emmanuel Macron au début, ensuite conseiller du président, ministre secrétaire d'État chargé du numérique. Donc comment vous définissez Cédrico ? C'est un facilitateur, un accélérateur ou le chat noir ?
Voilà, je vous propose de répondre à cette nouvelle série de questions.
Alors sur la première question qui est donc sur l'aspect relationnel, je pense peut-être pour corriger, on voit plutôt cette technologie comme une manière d'équiper les professeurs et les médecins et faire en sorte qu'ils fassent prennent des meilleures décisions ou qu'ils soient plus efficaces dans leur manière de traiter une classe. C'est-à-dire que un professeur et une intelligence artificielle, ça permet sans doute de traiter une classe de 25 personnes de la même manière qu'un professeur pourrait traiter, sans intelligence artificielle, pourrait traiter une classe de 12 personnes. Il faut plutôt le voir comme un levier de personnalisation et d'efficacité dans ce qui est enseigné. Par ailleurs, il faut aussi se poser la question il y a certains endroits où on n'arrive pas à mettre des humains. Et est-ce qu'il vaut mieux avoir rien ou est-ce qu'il vaut mieux avoir des systèmes de contact ? Est-ce qu'il vaut mieux avoir une application sur son téléphone qui permet de faire un peu un diagnostic qui va être qui peut être tout à fait pertinent et qui peut être transmis d'une manière relativement empathique ? Il y a un certain nombre d'études qui démontrent qu'en réalité, les chatbots et les assistants conversationnels, ils sont plutôt plus empathiques que les médecins parce qu'ils ont une espèce de patience infinie, ce qui n'est pas forcément le cas des médecins. Donc je pense que c'est... L'enjeu, évidemment, pas de ne pas faire disparaître les relations personnelles, mais plutôt de rendre les choses plus efficaces et puis d'essayer de contribuer de manière bénéfique aux endroits où ça serait une contribution bénéfique. Sur les études d'impact... Alors, comme c'est assez tôt, il n'y en a pas beaucoup, mais je pense qu'un bon point d'entrée, c'est le rapport du comité IA qui a été fait et qui regarde ça dans plusieurs directions, dans la direction économique, dans la direction environnementale. Dans la direction environnementale, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui va se passer dans les 5 prochaines années, c'est qu'il y a énormément d'investissements dans les data centers pour pouvoir concentrer de la capacité de calcul et faire des modèles particulièrement performants. Donc, il y a un surinvestissement en watts. Mais qui normalement, si tout se passe bien, comme c'est des gains de productivité, devrait plutôt se transformer en productivité accrue pour chaque watt donné dans l'économie mondiale. Donc voilà pour la première série, je pense. Sur le sujet, sur vos questions, je pense qu'il y a un sujet de est-ce que les intelligences artificielles qu'on crée aujourd'hui sont capables d'être créatives ? Quand on est parlementaire aujourd'hui, on peut être qu'on écrit une loi, on est créatif, on prend tous les tenants et aboutissants de ce qui se passe et un diagnostic de la société française peut-être, et puis on essaye de le changer en y réfléchissant. Je dirais qu'effectivement aujourd'hui, la créativité très haut niveau est toujours l'apanage des humains et on n'arrive pas très bien à l'imiter. Je dirais que ça ne va pas forcément rester le cas pendant très longtemps parce qu'en fait, les modèles... Qu'est-ce que c'est que la créativité si ce n'est l'interpolation d'un certain nombre de choses qui préexistent ? Enfin, c'est tout un débat philosophique, mais les modèles de langue, c'est fait pour interpoler des concepts qui préexistent. Donc, étant donné un diagnostic, ils peuvent fournir éventuellement un remède. Ils ne le font pas encore bien, et les humains, aujourd'hui, c'est très important que les humains soient dans la boucle, mais le niveau de créativité des humains doit augmenter pour que la contribution des humains reste non marginale. Sur le sujet des biais, et nous, notre approche, c'est vraiment de considérer que la technologie est neutre et qu'il faut donner aux constructeurs des applications, aux développeurs, les outils pour mettre leurs biais, pour mettre leurs propres valeurs et pour faire en sorte que cette valeur soit respectée. Donc on promeut la diversité, là où je pense que certains de nos concurrents promeuvent une vision unique du monde. Et ça, on pense que c'est nécessaire, parce qu'en réalité, il n'y a pas de... Il n'y a pas de système de valeurs universel, y compris d'ailleurs entre les Européens et les Américains, il y a un certain nombre de différences. Et je pense que c'est important de le savoir et de le permettre dans cette technologie. Sur la question de la territorialité, je pense que c'est important, effectivement. Il faut considérer que c'est une technologie qui n'est pas dans les airs, hein, qui n'est pas dans le cloud. Et en réalité, elle est dans les data centers. Il y a des GPU, ça prend des mégawatts, des gigawatts. En France, on en a cet atout d'avoir un parc nucléaire qui est vieillissant, mais qui peut se renouveler. Et cet atout-là, en fait, c'est un atout très, très intéressant pour construire des data centers qui utilisent beaucoup d'énergie pour créer de l'intelligence. Donc voilà, du nucléaire, de l'énergie, de l'intelligence. C'est un atout de la France. Il faut une réflexion industrielle sur le sujet. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup d'investissements étrangers. Je ne suis pas sûr que sur le long terme, ce soit une très bonne idée. Voilà, sur cette question-là. Et alors ensuite, sur la question de comment on développe la filiale européenne, les financements européens. Alors ça, c'est une question de pourquoi on n'arrive pas... prenons un exemple, la série A, on a levé surtout aux États-Unis. Pourquoi on a levé aux États-Unis? C'est parce que les fonds de croissance, fonds de growth en Europe, nous ont tous dit que c'était trop tôt et qu'ils n'arrivaient pas à le faire. Pourquoi ils ont fait ça? C'est qu'en fait, leur LP à eux, donc les capitaux, les gros fonds stratégiques, souverains, en fait, leur donnent pas le mandat de faire ce genre de choses parce qu'ils ne sont pas suffisamment long terme. Pourquoi ils ne sont pas suffisamment long terme? C'est parce qu'il n'y a pas de marché de capitaux long terme en Europe, que l'épargne n'est pas investie en venture, dans le risque, que la retraite, il y a un système de redistribution. Je pense à un système très performant, mais qui pourrait être repensé pour qu'il y ait des investissements plus long terme en réalité. Et donc, tant qu'il n'y a pas de fonds stratégiques de plusieurs dizaines, centaines de milliards en Europe qui soient capables de faire des investissements en disant que le retour, il n'est pas avant 20 ans, avant 30 ans, il n'y aura pas de fonds de croissance. Et, pour les entreprises qui sont en forte croissance, elles iront chercher aux États-Unis. Et puis à terme, elles iront faire une IPO aux États-Unis. Cette réflexion sur les marchés des capitaux, elle est très importante à avoir. Et je pense que c'est une des sources du décrochage de l'Europe par rapport aux États-Unis dans les 20 dernières années. Alors, je ne suis pas financier, mais je pense que c'est un vrai sujet. Sur la question des investissements qu'il faut, je pense que le bon point de comparaison, c'est les investissements en connectivité Internet. On parle de 2,3 trilliards d'euros, de 2300 milliards d'euros entre 1990 et puis aujourd'hui. Je pense que le consensus aujourd'hui, c'est que les investissements en intelligence artificielle vont être plus élevés que ça. Donc on est de l'ordre de plusieurs trilliards d'euros. C'est beaucoup. Ça va surtout être porté par les États-Unis si on ne fait rien. Cédrico est un conseiller de l'entreprise, il était cofondateur au début. Il a effectivement des parts dans l'entreprise, ce qui, je pense, est normal pour des advisors. Je pense qu'il y a une crispation française sur les allers-retours entre le privé et le public. À ce titre-là, je pense que ce n'est pas une très bonne frustration. Je pense que ça facilite plutôt la communication, et cette communication, elle est importante. Cédrico n'a aucun conflit d'intérêt dans sa participation à Mistral.
Merci. Nouvelle série de questions. Christian Redon-Sarrazy.
Oui, merci, madame la présidente. Merci. Monsieur, pour vos propos. Alors, trois questions. Une petite précision, vous avez évoqué dans votre présentation 50 personnes, je crois. Donc, vous pouvez peut-être nous mettre ce chiffre en perspective de la taille de vos concurrents. Quelques précisions sur le sujet pour qu'on comprenne un peu mieux. Vous avez évoqué le contrôle de l'IA par l'humain, in fine. Or, l'IA générative... une de ses capacités, c'est de générer des millions de lignes de code. Est-ce que vous pensez que ces millions de lignes de code générées peuvent être in fine contrôlées par l'humain, ou est-ce que ça n'échappera pas au contrôle humain? J'en veux pour preuve les auditions qu'on a faites dans le cadre de la délégation de la prospective sur IA et santé, dans lesquelles certains médecins sont inquiétés justement des emballements possibles de l'IA générative sur de l'interprétation, sur de la formation, et qu'effectivement cette connaissance échappe à un moment à l'humain. Et ma dernière question concerne les secteurs d'activité. Vous nous avez beaucoup parlé du secteur des services, de la révolution à venir en termes d'emploi, enfin la, les évolutions énormes des 20 prochaines années. Qu'en est-il dans le secteur de la production? Est-ce qu'on va assister aux mêmes mutations dans le domaine de la production? C'est un vieux débat, vous savez, la France des cols blancs et la France des blouses bleues. Voilà, est-ce qu'on va retrouver le même... même problème avec oui. l'arrivée, enfin avec oui, l'avènement de l'intelligence artificielle.
Merci Christian. Fabien Gay.
Madame la Présidente, j'ai absolument pas eu réponse aux questions que je vous ai posées. Donc si ça vous gêne pas, si ça vous gêne, vous n'êtes pas obligé de répondre.
Mais non, au moins que... Alors c'est quoi? C'est juste que j'ai du mal noté. je vais répondre tout de suite. Sur la quelle question?
L'éthique, la question.
Mais le premier
sur l'éthique, oui.
Question. Oui, alors. Bon, allez-y.
Est-ce que ça remplace les humains? Est-ce que ça remplace les relations interpersonnelles? Non, ça ne les remplace pas. Ça facilite les transactions. Sur le service client, par exemple, on peut déployer des intelligences artificielles qui vont remplacer les personnes qui sont au téléphone. Et je pense que c'est ce qui va se passer, parce que ça coûte beaucoup moins cher. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Nous, on pense qu'il faut vraiment voir cet outil comme une manière d'augmenter les humains et qu'une grande partie de la valeur ajoutée des humains, c'est justement de communiquer entre eux. L'intelligence artificielle qu'on crée, elle sera intéressante et bénéfique pour l'humanité que dans la mesure où elle facilite les interactions entre les humains et elle augmente les interactions entre les humains.
Vous aviez évoqué le cas des territoires ruraux, la santé, ouais. et l'éducation, c'est quand même deux gros sujets qui vous préoccupent tous. Voilà, en laissant entendre que ça pourrait, les choses pourraient se régler en partie. Ou,
alors, c'est pas qu'elles pourraient se régler.
J'ai compris, c'est, hein, mais
c'est voilà, que c'est, dans un désert médical, pour un exemple très concret, où il n'y a pas de médecin à 100 km. Je pense qu'il y a des endroits à 50 km, on va dire. En France, où c'est le cas, si on peut. On peut faire de la vidéoconférence, etc., avec des médecins. Je pense que c'est déjà une bonne solution. Si ces médecins peuvent avoir une intelligence artificielle à côté pour traiter de sujets dont ils ne sont pas forcément spécialistes, donc ils permettent de faire des diagnostics qui sont mieux posés, je pense qu'il y a un bénéfice net à trouver à cet endroit-là. Et c'est vrai en France, c'est vrai dans d'autres pays où le sujet est encore plus compliqué, où il y a beaucoup moins de médecins. Ce qu'on appelle le Global South, les Américains l'appellent comme ça. Mais la question qu'il faut se poser, je pense, et c'est une question qui c'est pas vraiment à nous d'y répondre, c'est quels outils on se permet d'avoir pour augmenter la santé générale de l'humanité, même si ça ne passe pas forcément par autant de médecins que par lesquels ça passait avant. Si ça permet d'améliorer la santé de l'humanité, je pense que c'est une bonne chose. Sur l'éducation, il faut vraiment le voir. Sur l'éducation, l'intérêt, c'est que ça permet de regarder ce que font les élèves de manière plus fine que ce que faisait ce qu'un professeur peut faire avec 30 personnes. Voir exactement quels exercices sont faits, proposer des cursus personnalisés. C'est aussi une manière d'avoir presque un professeur particulier par personne, tout en ayant juste un prof pour 30 élèves. Donc, il faut plutôt le voir comme un outil d'efficacité de l'éducation. Et je pense que il y a beaucoup d'entreprises qui essayent d'améliorer l'éducation pour ça. Les études d'impact, c'est sur le rapport d'un comité IA. Le comité IA est une bonne étude d'impact, je pense. Enfin, ça n'a pas ce titre-là, mais c'est un bon point de départ.
Alors, on reprend avec Fabien Gay. Fabien.
Oui, merci Madame la Présidente. Bonjour. En préambule, dire que... Je pense que comme tout le monde, on est assez content, heureux qu'une entreprise française réussisse et qu'elle puisse venir concurrencer les Américains, les Chinois et autres, parce que c'est un enjeu stratégique et souverain extrêmement important, et je pense que nous sommes qu'au début de cette question-là. Après, j'en viens, du coup, une fois que j'ai dit ça, au débat. En une question. Moi, j'ai bien écouté tout ce que vous avez dit et j'ai un point de désaccord ou de débat, je ne sais pas comment le dire. Vous avez dit l'intelligence artificielle est neutre. Moi, je pense tout le contraire. Mais c'est un vieux débat. Hein. Parce que la question de la neutralité de l'outil et de la technique, c'est une question politique et même philosophique. Et qui, dans l'histoire du progrès humain et scientifique, anime les êtres humains. Par exemple, l'intelligence artificielle, c'est intelligence et artificielle. Qu'est-ce qui différencie un humain de l'écosystème ? C'est l'intelligence et la parole. Demain, si on a de l'IA qui peut venir en contrepoint avec nous, ça pose une question philosophique. Et pareil, le biais par lequel vous construisez votre intelligence artificielle ne sera pas le même que votre voisin. Nous sommes une cinquantaine ici. Bon, personne n'est capable de faire ce que vous faites. Hein. Moi, le premier. Il y a des collègues bien plus intelligents que moi, mais même le plus intelligent, je ne vous dirai pas lequel c'est, serait incapable de faire ce que vous faites. Mais si nous avions les mêmes connaissances, nous sommes 50, nous n'aurions pas la même finalité et nous n'aurions pas la même intelligence artificielle à la fin. Parce que, par exemple, vous dites après, pourquoi vous l'avez fait ? Ça va permettre des gains de productivité. Ben, moi, par exemple, je pose des questions. C'est que si on a des intelligences artificielles dans le demain, ça va transformer les emplois, mais surtout le travail et le sens au travail. Est-ce que nous le faisons collectivement pour accroître les productivités ou pour se libérer du temps pour faire autre chose ? C'est une question politique qui va nous animer. Donc, vous le tranchez pour de gains de productivité. Voyez bien que de là où je parle, je vous dirais que c'est plutôt la deuxième, mais c'est encore, du coup, un débat. Mais je le redis, l'industrie, quand elle a fait le fordisme et le taylorisme, quand elle a mis en place des outils pour accroître la productivité, elle aurait pu le faire pour autre chose, mais elle a accru la productivité grâce à ça. Donc, vous voyez, je suis assez intéressé par ce débat. Et le dernier, la toute petite dernière question, donc qu'est-ce qui vous anime ? Voilà, qu'est-ce qui vous anime et pourquoi le faire ? Voilà. Et la dernière, je n'ai pas bien compris sur les droits des salariés, j'ai bien noté un truc. Faudrait permettre plus de droits aux salariés. Alors ça, si vous pouvez le répéter ici une deuxième fois, je vous avoue, et même une troisième fois en repartant, ça fera du mal à personne.
Merci Fabien, et on passe à Daniel Fargeau.
Oui, merci Madame la Présidente, bonjour. Alors oui, à l'aune des échéances européennes, vous évoquiez il y a quelques mois que la régulation, pardonnez-moi, européenne du secteur risquait de gêner l'éclosion de votre start-up. A priori, il n'en est rien, votre développement vers les États-Unis en est un parfait exemple. Alors, quels sont les freins que vous avez identifiés, observés à l'échelon européen pour permettre l'émergence de champions européens, voire olympiques ?
Et peut-être encore Annick, puisqu'a priori je n'ai plus d'inscription. Annick Jacquemet.
Merci Madame la Présidente. D'abord, je voudrais vous féliciter pour votre parcours, quand on voit ce que vous avez fait, votre jeune âge pour en arriver là. Voilà, vraiment félicitations. Vous avez parlé de l'IA et du travail parlementaire. Hein. Vous avez, deux de mes collègues sont intervenus à ce sujet-là. Et Anne-Catherine Loisier disait que nous, on était plus là pour travailler sur l'avenir. Et notamment, on travaille sur les textes de loi qu'on étudie, qu'on travaille, qu'on amende. J'ai entendu que l'intelligence artificielle était capable, en quelques minutes, voire une fraction de seconde, de générer des milliers, voire des millions d'amendements. Alors, est-ce que l'intelligence artificielle est aussi capable de faire le tri, parce que à ce rythme-là, on bloque complètement le travail parlementaire et les textes de loi seront complètement impossibles à voter parce que les débats vont s'enliser. Donc voilà, je voudrais avoir votre analyse. Merci.
Voilà, Monsieur Mensch, on vous propose de répondre à cette dernière série de questions tout aussi pertinentes les unes que les autres.
Alors, sur la taille de nos concurrents, quatre grandes entreprises américaines qui font ça, qui sont Meta, Google, Amazon, Microsoft, c'est plus que 100 000 personnes, c'est à peu près 100 000 personnes chacune, ce qui est beaucoup plus. Alors après, nous on est 50, pour donner un peu de couleur, on est 50, il y a 35 personnes en France, il y a 7 personnes aux États-Unis, 38 personnes en France, 7 personnes aux États-Unis, 5 personnes en Angleterre, enfin au Royaume-Uni. Parmi ces grandes entreprises, il y a un peu leur poulain, c'est plutôt des entreprises de 1 000 personnes à peu près. Nous, il faut qu'on grandisse, hein, on est trop petit, parce que il y a plein de choses, beaucoup de choses à faire et beaucoup de choses qui peuvent être parallélisées. Donc, on est trop petit, mais c'est un des objets, c'est de croître rapidement. Sur la question de la génération de code, effectivement, ce que ça permet de faire, ces intelligences artificielles, c'est de faire des agents, donc des choses qui peuvent interagir avec des outils. Mais ce n'est pas du logiciel différent de ce qu'on faisait avant. C'est-à-dire que les outils, c'est quand même l'humain qui décide quels outils vont pouvoir être appelés. Et c'est l'humain qui décide d'exécuter le code. Donc, le modèle peut générer du code. En général, il sait générer du code cohérent, une centaine de lignes. Il ne va pas générer des choses particulièrement complexes. Et c'est au créateur de l'application de décider d'exécuter ce code. Et donc, tout l'enjeu, quand on crée des applications où il y a de l'intelligence artificielle, c'est qu'effectivement, on ouvre un petit peu plus l'espace des possibles et de l'espace des exécutions possibles. Et ça rend le fait de vérifier que ça fonctionne un peu plus compliqué. Et c'est à ce titre-là, il y a besoin d'outils, et c'est les outils qu'on construit. Mais ça ne change pas le paradigme, on fait toujours du logiciel. On veut résoudre un problème et on veut avoir un système intelligent qui fait des choses et qui renvoie des choses à l'utilisateur. Il peut le faire de manière plus flexible que ce qu'il faisait avant. Ensuite, sur la question du service et de la production. Alors, nous, ce n'est pas vraiment notre sujet, mais vous pourriez inviter quelqu'un qui fait de la robotique, puisque ça avance quand même assez vite de ce côté-là aussi. En particulier, du côté de la dextérité, du côté de le déplacement avec des bips, des humains, enfin des robots androïdes qui ressemblent, qui vont vite et qui sont dextères. La combinaison des deux est intéressante. Hein. Je pense qu'il faut anticiper que d'ici 5 ans, on va pouvoir, enfin, même avant ça, largement mettre des modèles Mistral ou des modèles de concurrents dans des robots qui se déplacent à vitesse humaine, qui ont une dextérité qui est proche de celle d'un humain. On n'en est pas encore tout à fait là, mais on voit notamment en tout cas, l'intelligence d'un robot, on arrive à la mettre dans un ordinateur. On arrive à entendre, on arrive à parler, on arrive à voir. La chose qu'on n'arrive pas encore complètement à faire, c'est à agir et à toucher. Mais ça va changer, ça s'améliore vite aussi. Je dirais que également dans la production et dans la manufacture, il y a des changements profonds qui sont à prévoir. Alors, sur la question de la neutralité de l'outil, je pense qu'effectivement, c'est jamais neutre parce que ça porte... un changement de société, ça c'est un premier sujet. Nous, quand on parle de neutralité, on parle plutôt de neutralité culturelle, c'est-à-dire est-ce qu'on permet ou pas à nos utilisateurs de choisir leur langue, de choisir le ton, de choisir peut-être l'orientation politique d'un assistant, de choisir les politiques qu'il va suivre et les consignes, les contraintes qu'on lui impose. Y a plusieurs lignes de ce côté, enfin, y a plusieurs courants et il y a certaines entreprises qui pensent qu'il faut imposer ses propres codes et qu'il y a des codes universaux. Nous, on est plutôt porteur de la personnalisation et on cherche à faire en sorte que l'outil, même s'il est porteur d'un changement de société de manière générale, mais que cet outil puisse au moins être personnalisé par les utilisateurs et par les utilisateurs de l'outil. Je pense que c'est utile de revenir sur vraiment ce dont on parle aujourd'hui, c'est des générateurs de texte. Donc ça va transformer les services. C'est pas complètement immédiat, j'ai répondu à la question précédemment, mais la manière dont ça change la production, c'est pas entièrement notre sujet, on va dire. Qu'est-ce qui nous anime Moi, ce qui m'anime, c'est la science. Je pense que ce qui anime mes cofondateurs aussi, c'est de pouvoir pousser la science et de pouvoir le faire de manière indépendante sans être vassalisé aux États-Unis. Aux États-Unis, pas forcément, mais vassalisé à des entreprises existantes qui ont 25 ans, qui ont eu énormément de succès il y a 25 ans et qui utilisent ces succès pour consolider leur position dominante. Pour nous, c'est important de perpétuer ces cycles d'innovation et donc de lancer des entreprises innovantes qui vont apporter des choses différentes que ce que peuvent apporter les grandes entreprises existantes. Sur le droit des salariés, je le redis, nous on est favorable, enfin de manière générale, les startups sont favorables à plus de fluidité du marché du travail. C'est-à-dire que quand on veut recruter quelqu'un chez le concurrent, on voudrait pouvoir le faire en 2 semaines, on voudrait pouvoir le faire en 10 jours, comme ce qui est fait aux États-Unis. Mais la contrepartie, c'est que nos propres employés peuvent partir. Et sans doute, une contrepartie aussi, c'est que ça puisse être moins difficile de séparer d'un employé avec lequel le fit est pas bon. Donc, tout le monde est bien payé. Le monde idéal pour une start-up, c'est que tout le monde est bien payé, qu'il faut être performant pour rester dans la start-up, et que si une start-up veut aller piquer des concurrents, des employés chez ses concurrents plus gros, et qu'elle puisse le faire de manière facilitée. Donc, moins de protection employeur, et peut-être un petit peu moins de protection employé sur certains sujets, quand les salaires sont là, quand les salaires sont élevés, qu'on puisse évaluer rapidement si le fit est bon et si on a bien recruté. Voilà.
Oui, Fabien.
Pas du tout sur ça. C'est ça qui va.
Ouais, je pense qu'il faut avoir, il faut distinguer, il faut adapter la protection aux revenus. Je pense que c'est un sujet important.
Non, bah, attendez, me lancez pas. Je vais dire, je ne réponds pas sur ça. Sinon, on a un port de l'heure. Non, je reviens sur moi, ce qui m'intéresse plus là. Bon, du coup, j'ai mieux compris sur la question sociale et donc, de fait, on n'est pas d'accord. Mais c'est pas grave. Ça sera une prochaine fois. Non, moi, sur le changement de production, c'est quand même un débat. Et c'est aussi votre débat. Je prends un milieu que je connais un peu, le monde de la presse. Ça va avoir des impacts, et ça a déjà des impacts aujourd'hui, mais qui ne sont pas neutres. Je veux dire, aujourd'hui, bon, par exemple, Elon Musk vient d'expliquer qu'il va investir des milliards pour créer un site internet qui sera un site d'information où les articles seront générés exclusivement par l'intelligence artificielle, avec tout ce que ça a derrière, les fake news, etc., les déstabilisations que l'on peut avoir de pays autres. C'est déjà le cas aujourd'hui. Donc, par exemple, on peut prendre l'intelligence artificielle pour accompagner sur certains métiers dans la presse, mais est-ce que demain, on est d'accord collectivement que des articles soient produits, quel qu'il soit, par de l'intelligence artificielle et non plus par le cerveau humain, si on me dit, c'est non. Et donc ça, ça a un impact déjà concret. Parce que la réalité, c'est que l'intelligence artificielle aujourd'hui, elle est déjà générative d'articles, de relais puissants par des algorithmes dans les réseaux sociaux, qui y compris jouent des... Non mais je veux dire, et ça va être, sur une échelle de 10 ans, plus que le réel. Ça sera le concret. Donc, quand on est, comme vous, en maîtrise de ça, en disant, bon, mais nous, on met tout ça à disposition, mais on tient à l'écart la question de qu'est-ce que ça va transformer dans la production, vous voyez, je pense qu'on a un petit débat. On a un petit débat.
Alors, on pense
j'aurais plaisir de vous revoir pour parler des questions
bien
sociales.
Sûr. Non, mais je pense que ce qui est important...
C'est un syndicat chez vous, parce qu'à 50 salariés, on commence à avoir...
Oui, ça arrive. Il n'y a pas encore 50 personnes dans l'entreprise française, donc on n'a pas encore ça. Sur le sujet des journalistes, il faut vraiment le voir comme un outil. C'est-à-dire que ce que l'intelligence artificielle ne sait pas faire, c'est être sur le terrain. C'est faire les interviews, c'est d'aller voir ce qui se passe. Ce qu'elle peut faire, c'est faciliter l'investigation. Quand vous recevez les Panama Papers, c'est pas mal d'avoir une intelligence artificielle sous le coude pour aller trouver qui a mis la main dans le pot de confiture. Et donc, je pense que vraiment, nous, on travaille avec plusieurs journaux justement sur ces questions parce que je pense que c'est vraiment un outil pour faire de la meilleure information. Après, c'est aussi un outil pour faire de la désinformation, donc ça veut dire qu'il faut faire plus de modération sur les réseaux sociaux par exemple. Et sur la question, mais de manière générale, la question qu'il faut se poser, c'est de toute façon cette transformation et ces outils, ils arrivent. Et la question, c'est est-ce qu'il y a quelqu'un chez nous, est-ce qu'il y a quelqu'un sur le territoire, en Europe, qui essaye de faire ces outils pour pouvoir contribuer au débat, parce que sinon les outils, bah, ce n'est pas les nôtres. Et on va le subir d'autant plus. Alors, sur la régulation du secteur, peut-être pour revenir à vos questions, c'est fin 2025, hein, donc ça ne nous affecte pas encore. Là, on est en train de recruter quelqu'un en conformité pour pouvoir faire la documentation nécessaire à ce que les IAC nous imposent, ce qui n'est pas un problème. Et ce n'est pas du tout lié au fait qu'on se déploie aux États-Unis. Alors, ce que nous, on redoute, c'est que, en fait, toutes ces régulations ne soient pas cohérentes entre elles et qu'on paye un coût qui est proportionnel au nombre de pays dans lesquels on se déploie. Et ça, c'est un vrai sujet, c'est sans doute un sujet de gouvernance. Et ensuite, sur la question du spam parlementaire, je pense qu'effectivement, vous allez peut-être avoir un sujet. Je suppose que... ça facilite certainement l'obstruction. Je pense qu'il y a peut-être quelques règles de conduite à mettre à adapter. Bon, il ne faut pas le faire trop vite. Hein. Je pense attendre peut-être le premier événement. Ce sera facile à détecter. Voilà.
Merci. Alors, il y a encore une question de notre collègue Laurent Duplomb.
Oui, bonjour. Merci, Madame la Présidente. Étant agriculteur moi-même, je connais déjà depuis quelques années l'intelligence artificielle et la robotisation, puisque mon élevage est robotisé au niveau de la traite depuis près de 15 ans. On voit les évolutions qui sont énormes sur l'amélioration des conditions de travail. On voit aussi la vulnérabilité de ce sujet-là depuis 15 ans, avec l'échappée des données qui peuvent être récupérées par celui qui construit le robot et qui fait qu'on est étroitement lié à lui-même, puisqu'on n'a plus nos données personnelles. Et surtout, un élément, c'est la maintenance. Pendant 15 ans, on a eu des maintenances qui ont été assez faciles à faire, dans le sens où, quand vous êtes robotisé, vous êtes entre guillemets vulnérable. Et donc, par définition, je pense qu'il n'y a pas une machine qui ne finit pas par tomber en panne ou par s'arrêter pour telle ou telle mauvaise utilisation ou autre. Et quand on se retrouve dans une situation où, en étant vulnérable, c'est à des heures, par exemple en pleine nuit et autres, eh bien, aujourd'hui, on a de plus en plus de difficultés pour trouver du personnel. Parce que là, ça passe malheureusement par l'homme. Ou alors, il faut un autre robot qui vienne sur place réparer le robot qui est en panne. Mais on trouve de moins en moins de personnel pour faire cette maintenance. Plus on aura de robotisation, plus on aura d'intelligence artificielle, plus on sera obligatoirement soumis à ces problèmes-là. Comment vous voyez les choses et comment on peut arriver à traiter ces problèmes-là? Parce que ça veut dire quand même qu'il faut qu'on ait des gens qui soient disponibles 24 heures sur 24 pour venir en soutien à ces éléments, même robotisés et d'intelligence artificielle.
Je pense qu'il y a deux sujets. Alors déjà, effectivement, quand on robotise, on a des fournisseurs supplémentaires. Et ça, je pense que ça crée nécessairement ça restructure l'économie dans le sens où ça fait émerger des nouvelles dépendances. Mais de certaines manières, ces dépendances, elles existaient sans doute auparavant. C'est-à-dire que la dépendance, elle est plutôt aux fournisseurs de l'outil mécanisé qu'au personnel. Mais oui, il y a un changement de dépendance, et je pense que c'est un peu inévitable. Là où l'intelligence artificielle peut contribuer à la maintenance, c'est que ça permet de détecter les pannes, ça permet de les anticiper, ça permet d'être plus efficace sur ces sujets-là. Je pense notamment à un certain nombre de sujets qu'ont les constructeurs automobiles avec les garagistes. Comment on fait pour utiliser de l'intelligence artificielle et mieux comprendre les pannes d'une automobile? Maintenance prédictive, alors c'est un sujet très important dans l'industrie, dans les trains, dans les avions, en fait dans tout ce qui est véhiculisé. Je pense que c'est un sujet aussi en agriculture, en effet. C'est porteur de plus de productivité et peut-être un jour, j'espère, plus de confort pour les agriculteurs. Le sujet que ça pose, c'est que comme il y a un changement dans la structure de l'économie, il faut qu'il y ait un changement dans la structure des compétences. S'il n'y a pas suffisamment de gens pour maintenir les intelligences artificielles, les robots, etc., c'est qu'il faut les former, il faut en former plus, il faut reformer des gens qui ne savaient pas faire ça avant, qui faisaient autre chose et qui doivent maintenant avoir la compétence de faire ce genre de maintenance. Ouais.
Alors, il y a encore une question, Daniel Grémillet.
Oui, merci Madame la Présidente. Effectivement, c'est très passionnant et ça montre que notre société va évoluer aussi avec des risques nouveaux. On voit bien la fragilité de notre société à travers le monde sur les attaques informatiques. Et ma question, elle est simple. L'intelligence artificielle va aussi ouvrir un nouveau champ de fragilité. Comment, au fur et à mesure que cette construction aura lieu, elle a déjà lieu, mais elle va prendre un pas bien, bien plus grand encore, comment se protéger? Je dis parce qu'on se rend compte que tout le monde est très fragile. Puis il y a une question, je n'osais pas la poser, mais finalement je vais le faire. Enfin, ce n'est pas une question, c'est une remarque. Philippe Séguin disait toujours par rapport à la finance, l'homme doit conduire la finance, et non la finance doit conduire l'homme. Par rapport à l'intelligence artificielle, c'est la même question. Comment l'homme peut rester maître de la décision et garder son pouvoir et non l'intelligence artificielle qui est en train de prendre le pouvoir de l'homme.
Voilà.
Okay. Alors, peut-être sur la deuxième question, vraiment, on parle vraiment de logiciel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de changement, c'est un langage de programmation, personne ne se fait contrôler par son langage de programmation, il y a toujours des développeurs, alors ce n'est plus les mêmes développeurs, c'est des spécialistes en IA, mais enfin, c'est les mêmes développeurs, mais ils se sont reformés. On crée toujours des applications, et avant de déployer ces applications dans le monde réel, on vérifie qu'elles fonctionnent. Et donc de ce point de vue-là, il y a toutes les peurs qu'il peut y avoir sur l'autonomisation de l'intelligence artificielle. Je pense qu'elles viennent du fait qu'on anthropomorphise un petit peu trop les assistants qui génèrent du texte et qu'on a l'impression que c'est des personnalités, mais ce n'est pas des personnalités, hein, c'est juste un modèle statistique qui génère du texte. Et donc de ce point de vue-là, je pense que ce n'est pas vraiment la question qu'il faut se poser, c'est plutôt, oui, c'est très performant, ça va changer la manière dont les humains travaillent, comment on fait pour faire une symbiose homme-machine qui fonctionne sur le long terme et qui... et dont la société bénéficie. Sur la première question, je crois que j'ai oublié la première question.
Comment se protéger ?
Oui. Comment se protéger ? Ah oui, bien sûr. Alors, la question, c'est de l'utilisation à des fins néfastes. Pour être très concret, il y a deux sujets, et peut-être un troisième, mais qui est un moindre sujet. La première, c'est que ça permet de spammer. Ça permet de générer du contenu qui a l'air vrai. C'est moins vrai en texte, c'est assez vrai quand on génère des images, parce que les images, l'audio, ça c'est assez dangereux parce que les humains ont tendance à y croire beaucoup. Et donc il y a un sujet de deepfakes, ce qu'on appelle comme ça, qui potentiellement est problématique, que nous on évite parce qu'on ne génère pas d'images, on ne génère pas d'audio. Mais je pense que c'est important. La question que ça pose, c'est la question de la modération. C'est la question du contrôle de la validité des informations par les plateformes qui les relaient. Et donc, la désinformation, en réalité, le goulot d'étranglement, c'est plutôt la diffusion que la génération, que l'écriture. Et donc, finalement, marginalement, ça n'a pas beaucoup d'impact. Ce que ça veut juste nous dire, c'est qu'il faut améliorer les systèmes de modération. Et les systèmes de modération, on les améliore avec de l'intelligence artificielle. Donc, d'une certaine manière, l'antidote est un peu contenu dans le poison. Le deuxième sujet, c'est celle de la cybersécurité. Ça permet... On a des systèmes qui sont un petit peu plus flexibles et qui peuvent éventuellement exploiter des failles de sécurité de manière un peu plus efficace que ce qu'on faisait avant. De la même manière, on peut faire des heuristiques, des antivirus, des pare-feux, ce genre de choses, qui sont aussi un peu plus flexibles et qui ont des meilleures heuristiques dans la détection des attaques. Donc voilà, pareil, l'antidote est contenu dans le poison. Il faut faire l'hypothèse que nos adversaires l'utilisent et qu'il faut l'utiliser nous aussi. Donc c'est un sujet plutôt de défense. Ensuite, il y a un sujet globalement, qui est un sujet qu'on se pose, une question qu'on se pose depuis 600 ans à chaque fois qu'on invente une nouvelle technologie. On facilite l'accès à la connaissance au monde entier. Ça marche mieux qu'un moteur de recherche pour aller trouver de la connaissance. On peut trouver de la connaissance qui peut être utilisée à des fins néfastes, c'est sûr. On a tenu le même discours quand on a inventé l'imprimerie et que les moines disaient qu'il ne fallait pas utiliser l'imprimerie parce que ça allait rendre les gens trop intelligents. Nous, on pense que de manière générale, ça a plutôt bénéficié à l'humanité d'améliorer l'accès à la connaissance. Évidemment, ça améliore l'accès à la connaissance de gens qui peuvent avoir de mauvaises intentions. Ce que ça veut dire, c'est qu'il faut d'autant plus surveiller ce genre de menaces, quoi. Les menaces en terrorisme, par exemple. Enfin, ça, il en est beaucoup question aux États-Unis, le risque sur la sécurité nationale par des groupes qui pourraient utiliser des modèles de langue pour faire à des mauvaises fins. Nous, on pense que ce n'est pas pertinent puisque ça ne fournit pas marginalement l'effet très faible et qu'en fait, si on veut agir à de mauvaises fins... le chemin le plus facile ne passe pas par l'utilisation d'une intelligence artificielle en général. Mais bon, c'est un sujet, je pense, qu'il convient de se poser, de surveiller au fur et à mesure que la technologie se développe.
Plus de questions ? Eh bien, écoutez, vraiment, on est très honorés que vous ayez répondu à notre invitation. C'était passionnant. On vous souhaite de croître encore plus rapidement que vous ne l'avez fait depuis une année. Et bien évidemment, on souhaite aussi que Mistral reste majoritairement, ou en tout cas dans le giron national. Vous avez compris combien nous sommes attachés à cela. Et puis, bonne continuation à vous. Et on ne manquera pas de suivre les évolutions de Mistral. Donc, avec intérêt. Merci beaucoup, madame, et merci, monsieur Munch.
Merci.